On a parlé un peu au début de la semaine des mesures, ou pas des mesures, mais des propos un peu contradictoires de la santé publique. Au début, le masque n'était pas important, après ça, ça l'est devenu. Depuis quelques jours, le gouvernement se fait talonner sur ce qu'on appelle les tests rapides en disant « Vous avez 1 300 000 tests, pourquoi ne pas les utiliser? » Puis là, on nous donne toutes sortes d'arguments en disant « Bien... » Puis là, finalement, ça a l'air qu'ils vont commencer tranquillement. Il y a des spécialistes, ce matin, médecins, profs, qui signent une lettre ouverte en disant au gouvernement, là, le virus est dans la communauté, on a des tests rapides, c'est pas parfait, mais sortons-le. Luc.
Oui, puis en plus, ce qu'ils proposent, c'est une véritable révolution dans la perception qu'on a des tests. Là, pour l'instant, un test, c'est tu te sens malade, tu vas à l'hôpital, tu te fais tester, tu reçois tes résultats plus tard. C'est un acte médical. Eux, ce qu'ils veulent, c'est en faire un acte citoyen. Il y aurait des tests partout, dans les pharmacies, dans les écoles, dans les milieux de travail, dans les dépanneurs. Tu vas, tu te testes. C'est toi qui prends la décision, tu te testes. Puis, tu as ton résultat immédiatement et ça permet de déceler immédiatement. Donc, il n'y a pas le deux jours de décalage, la décision que de dire, ah, ben là, j'ai des symptômes, je devrais aller me faire tester. Après ça, j'y vais. Moi, j'y suis allé une fois, puis on m'a dit, ben non, t'as pas assez de symptômes, retourne chez vous, tu reviendras. Il y a cette étape-là aussi qui est sautée. Après ça, il y a l'étape des résultats. On sait que le traçage, ça s'est bien fait dans plusieurs des cas. Il y avait des résultats dans 48 heures, puis on appelait les cas avec qui tu avais été en contact. Mais dans d'autres cas, ça a pris 8 jours, 10 jours, 11 jours avant de rappeler. Donc, tout ça saute. C'est boum, tu as ton résultat et tu te comportes en conséquence. Tu n'y rentres pas dans la classe, tu ne rentres pas dans le lieu de travail. Et on sait que la contamination dans le lieu de travail est extrêmement importante. Alors, c'est une petite révolution qu'ils proposent. Le problème, c'est que ce que le gouvernement répond, c'est que les tests ont 30 % de faux négatifs et souvent aussi des faux positifs parce qu'il faut une charge virale importante pour qu'ils puissent fonctionner. Alors, il propose une solution idéale, mais peut-être avec un outil qui ne l'est pas encore idéal.
Nathalie.
Mais
rappelez-vous, oui, Paul, rappelez-vous ce que le bon docteur Arruda nous disait au début de la crise, au début de la pandémie, au printemps dernier, il faut tester, tester, tester. Moi, je fais partie de ceux et celles qui croient que dans le contexte d'urgence sanitaire actuelle, on n'a pas le luxe de l'économie de nos moyens. Et moi, je suis très, très encouragée, très heureuse d'ailleurs d'apprendre ce matin, puis c'est la presse qui le confirme, que le gouvernement, comme tu l'as dit, Paul, semble plus ouvert à utiliser ces tests rapides. Lorsqu'on a appris à l'automne dernier qu'il y avait 1,3 million de tests rapides qui dormaient sur nos tablettes, on s'est tous gratté la tête en se disant, ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Puis tu l'as dit, Luc, le gouvernement, là, bon, évidemment, disait, c'est pas des tests qui sont moins fiables que ceux qu'on utilise en laboratoire. C'est des tests qui doivent être utilisés dans certaines conditions. Mais là, je suis heureuse de savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement a dit, OK, parfait, on va utiliser ces 1,3 million de tests, oui, dans certaines conditions. Puis il faut savoir que le fédéral va en envoyer 1 million supplémentaires au cours des prochaines semaines. Et je lisais, je pense que c'est sur Radio-Canada, il y a seulement 6500 tests qui ont été utilisés jusqu'à maintenant de ces fameux tests rapides. Alors, puis sachant également que le dépistage est une des clés pour mieux contrôler le virus et surtout pour réduire la contagion, je me dis, ben bravo, j'applaudis à cette ouverture de la part du gouvernement du Québec. Certains pourraient dire qu'elle est un peu trop tardive, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on puisse utiliser tous les moyens à notre disposition pour y arriver. Alors moi, je dis, bravo. Puis, par contre, on aura un autre défi devant nous, c'est de tester. Puis il y a des spécialistes ce matin qui le disent aussi dans la presse. Il faut aussi tester plus rapidement, mais également les personnes contacts. C'est-à-dire que, par exemple, toi, Paul, tu as la COVID, tu as côtoyé 3 personnes autour de toi. Bien, l'important, c'est de tester également les personnes qui sont autour de toi.
Et d'autant
alors moi,
plus...
quand...
Oui, je dis d'autant plus, Nathalie, que dans les on perçoit que de plus en plus la proportion des asymptomatiques est plus importante que prévu. Le spécialiste matin dans la presse parlait de jusqu'à 50 %. Ça veut dire que les asymptomatiques pourraient se tester aussi beaucoup plus facilement, puis beaucoup plus rapidement, et puis beaucoup plus fréquemment avec un scénario comme celui-là, et on arriverait à intercepter. Mais encore là, tout ça, c'est beau, là, mais est-ce que le test est capable de le faire? Ça, c'est la santé publique insiste encore ce matin. Ils disent, oui, on va utiliser les tests, mais dans des situations précises, par exemple, lorsque la probabilité est forte qu'il y ait un virus, lorsque le test n'est pas disponible, dans des cas précis, on va utiliser le test rapide, mais eux ne sont pas arrivés à la même conclusion que les médecins que tu citais, Paul, de dire, ben, diffusons-le partout. Mais ça pourrait être pour une prochaine vague. Si le test peut devenir un peu meilleur, on changerait complètement la philosophie de traitement de la maladie. testage, traçage, testage, traçage, testage, traçage. Et on pourrait se libérer de confinement et couvre-feu.
Bien, il faut juste pas oublier que le test en question, le test rapide en question, il a été homologué par Santé Canada. Et deuxièmement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, souhaite avoir recours à ces tests par dizaines de millions, par exemple, pour le continent africain, pour tenter, évidemment, de contrôler la contagion là-bas et la propagation du virus. Alors, je me dis, en quelque part, il y a des instances extrêmement crédibles sur la planète qui nous disent, oui, on peut utiliser le test. Alors, je me dis, bon, ben écoute, il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Alors, bravo pour ce geste qui a été posé. Mais je veux partager avec vous un petit exercice que j'ai fait hier soir. Parce que je me suis dit, oui, tester, dépister, isoler, on s'entend, là, c'est comme les trois clés les trois clés dans le contexte pandémique actuel à atteindre ou les trois objectifs à atteindre en priorité. Là, il y a une autre donnée qui vient de s'ajouter, c'est la vaccination. Et je regardais les données du ministère de la Santé entre le 6 janvier et le 11 janvier, au moment, rappelez-vous, où la vaccination l'avait pris, là, vraiment une espèce d'air d'aller. On a vacciné jusqu'à 13 000 personnes, plus de 13 000 personnes par jour. Bien, je me suis rendu compte que durant ces quelques jours, on a effectué 11 434 tests de moins. Alors, dans le contexte actuel, je me dis, est-ce qu'on peut marcher et marcher de la gomme en même temps?
Absolument.
En fait, oui, mais c'est vrai parce que là, oui, tester au printemps. Là, on dit vacciner.
Bien, je comprends ce que tu dis, Nathalie.
C'est devenu, évidemment, notre planche de salut.
Je comprends ce que tu dis, c'est qu'à partir du moment où le test rapide, c'est pas un acte médical, ben tu libères du personnel, puis ce personnel-là peut travailler à la vaccination. Donc, marcher de la gomme serait encore meilleur si on avait le test rapide plutôt que le test
moi,
en laboratoire.
Je vois ça comme un côté aussi pratique. J'ai vu, je sais pas où, là, où, par exemple, tu voulais aller au restaurant, ben on te faisait passer le test, t'attendais 15 minutes, puis si ton test est négatif, tu pouvais aller au restaurant. Y a des entreprises qui achètent ces tests-là, parce qu'ils veulent pas fermer, ils veulent pas... Tu as un cas COVID, mettons, chez Olimel, tu peux tester tout de suite tout le monde, ça sera peut-être pas parfait, mais au moins, tu vas être capable de dire, toi, tu sors, toi, tu restes, toi, tu sors.
Ça modifie complètement toute la notion de confinement puis toute la fermeture. Le voyage, de trait des tests rapides, d'ailleurs, l'industrie du voyage, on va en parler tantôt, c'est ce qu'ils demandent, des tests à l'aéroport. Donc, ça modifie, ça change complètement. Puis, un autre changement qu'ils proposent aussi, c'est ça peut sembler bizarre, là, mais ils disent, il faut communiquer différemment. Ils parlaient de musique, d'humoriste, etc. J'ai compris ce qu'ils voulaient dire. C'est que à partir du moment où c'est un geste citoyen, à partir du moment où tu le ferais comme par exemple avant d'entrer chez ton employeur ou avant d'entrer dans un restaurant, ben faut pousser les gens à le faire. Et on a découvert aux États-Unis que la campagne de vaccination a pris cette méthode-là. Elle est extrêmement médiatisée. On a vu des joueurs de football, on a vu Biden, on a vu Obama, on a vu plein de gens se faire tester. Et là, bizarrement, la popularité du vaccin a augmenté à peu près de 20% juste avec la communication et la médiatisation. Au début, il y avait 50% des gens disaient « je ne veux pas me faire vacciner ». Puis maintenant, il y a jusqu'à 70% des gens qui disent « je veux me faire vacciner ». Donc, cette idée-là d'une prise en charge par la communauté, une médiatisation, un engagement, c'est la deuxième partie de leur proposition.
Ouais. Mais j'ajouterais à ça, Luc, dans le contexte actuel, ce qui est un peu hasardeux, parce qu'au Québec, il n'y a pas tellement de résistance à l'idée de recevoir son vaccin par rapport aux Français, par exemple. Mais vous vous rappelez, là, il y a quelques jours, on a appris qu'il y a beaucoup de Québécois qui ne dévoilent pas toutes les informations entourant leur contagion puis entourant le fait, leurs habitudes. Tu sais, oui, vous avez vu ça dans les médias, là. C'est comme, oui, je contacte la maladie, mais lorsque les enquêteurs se présentent à moi, je ne dis pas toute la vérité. Ça, je pense que dans le contexte...
Mais tu te retrouves, là, l'exemple que je pourrais donner ce matin, là, regarde les quartiers touchés à Montréal. Parc Extension, et bon, il y a Villeray un peu, il y a Montréal-Nord, c'est sûr, là. Ben, qui on retrouve là? Des gens qui sont démunis, des gens qui n'ont pas les moyens d'être en quarantaine, des gens qui ont des salaires qui vont être coupés s'ils ne se présentent pas au travail. Eux autres, là, en plus d'être dans des petits appartements puis de propices à la contagion, c'est sûr qu'ils n'ont pas envie de le dire. Excusez-moi, je pense que j'ai peut-être la COVID.
En plus, qu'ils vont devoir garder leurs enfants à la maison.
En plus.
Imagine-toi l'impact pour eux.
Oui, mais d'où l'importance, comme tu le disais, Luc, puis c'est le sens du message des médecins actuellement, c'est une communication plus positive. Ce qui m'encourage, c'est que la docteure Mylène Drouin, ce matin, Paul te disait, ben oui, ces tests rapides, on va les utiliser davantage dans des quartiers plus défavorisés, par exemple, de l'île de Montréal. Mais il faut il faut, sur le plan de la communication, aussi peut-être casser cette espèce de réflexe de gêne ou de honte qu'on peut avoir si on attrape la maladie. Mmh. Parce que ça crée souvent des conséquences importantes, le fait de ne pas dévoiler toutes les informations aux gens de la santé publique qui cognent à ta porte pour te demander, ben, t'as contacté qui, t'étais en contact avec qui, t'étais où au moment, il y a deux semaines, il y a une semaine. Alors, les enjeux sont très, très grands. Puis les impacts aussi peuvent être très grands sur la contagion du virus.
Juste vous dire en terminant qu'à l'Institut de cardiologie de Montréal, ils testent le personnel avec ça aux deux jours.
Mmh. Bon, ben voilà.
Ça pour alors éviter de se retrouver avec des cas de COVID à l'intérieur de l'Institut. On fait une pause. Merci beaucoup. 8h40, au retour, on va parler des mesures. D'abord, on a vu les coupures d'emploi chez Air Canada. Puis est-ce que le fédéral doit aider les compagnies aériennes? Et si oui, comment? On va aller voir ce qui se passe sur la 15.